Midi à Marseille. Elle aura lieu à la préfecture où le préfet présentera les différents plans de reprise de la compagnie. Les salariés qui dénoncent la privatisation de la SNCM ont prévu de manifester devant le siège de la SNCM, puis de se rendre en cortège jusqu'à la préfecture. Une rencontre entre le PDG de Hewlett-Packard Europe et le ministre délégué au Travail, Gérard Larcher, cet après-midi. Il sera bien sûr question du plan social annoncé, mais sans grand espoir. On en attend autant qu'un miracle à Lourdes, explique la CFDT de Hewlett-Packard. Dans un instant, nous allons à la Bourse de Paris.
La Bourse, avec regionjob.com, site internet de recrutement et d'offres d'emploi en région.
La Bourse est toujours en hausse, Cédric Decoeur.
Oui, Claire, soulagé par les faibles dégâts causés par Rita, le pétrole reflue nettement et les marchés d'actions en profitent. Paris n'échappe pas à la règle, puisque le CAC 40 gagne 1,57% à 4547 points. À noter aussi que l'indice a amélioré son plus haut annuel à 4559,82, très précisément. Sur les autres places du vieux continent, le constat est similaire à l'image de l'Euro First 80, l'indice de référence de la zone euro qui gagne 1,44%. Et puis, sur le marché d'échange, la situation s'est stabilisée, mais le billet vert reste ferme. L'euro cote en ce moment 1,2032. Voilà, Claire, je vous rappelle le CAC 40 qui gagne 1,57% à 4547 points. La Bourse de Paris pour France Inter, Cédric Decoeur.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
Il est 14h03 sur France Inter, comme promis, 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet. Bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, demain et après-demain, une histoire de la police en France. La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. Il faut donc faire que ce qui est juste soit fort, ou que ce qui est fort soit juste. Blaise Pascal. D'histoire. Aussi loin que l'on remonte dans l'histoire, la loi n'est rien s'il n'y a rien pour la faire respecter. Et s'il n'y a pas de société sans loi, il n'y a pas non plus de loi sans police. Sans la force, la justice est impuissante, disait Pascal, qui savait aussi que la police, qui est le bras armé de la société, peut être également l'instrument de tous les despotismes, et qu'il faut peu de choses pour qu'un État policé devienne un État policier. Tout dépend bien sûr des polices qui, depuis les prévôts du Moyen-Âge jusqu'aux préfets de la République, depuis les sergents de l'Ancien Régime jusqu'aux policiers du raid d'aujourd'hui, sont chargés depuis toujours de faire respecter la loi et l'ordre contre tous ceux qui peuvent les menacer, y compris au prix de quelques bavures, comme celle dont fut victime au XVe siècle le plus grand poète du Moyen-Âge.
François,
les sergents sont là.
Oui, lève-toi.
Nous avons l'ordre d'arrêter François Villon, maîtresseur.
Qu'a-t-il donc fait encore?
Une rixe avec un changeur, écrivain public à l'occasion, maître Philippe Tuvache.
Et qu'est-il advenu de cette rixe?
Advenu que maître François a tué son adversaire d'un coup de dague.
Sois courageux.
Ainsi me l'avoir la justice. S'il est une justice.
Te voilà seulement banni pour 10 ans de la prévôté et vicomté de Paris.
Et c'était le SDF François Villon, victime d'une descente de police, comme il en existe encore aujourd'hui dans les squats de Paris, et à une époque où la loi et l'ordre étaient assurés par des sergents de la prévôté et non par des fonctionnaires de la préfecture de police. Arlette Lebigre et Claude Gauvard, bonjour.
Bonjour.
Alors vous faites toutes les deux parties d'une équipe d'historiens qui vient d'écrire un livre, Histoire et dictionnaire de la police, publié chez Robert Laffont dans la collection Bouquins. Un livre et un sujet auquel nous allons exceptionnellement consacrer 3 émissions, aujourd'hui, demain et après-demain, et en commençant aujourd'hui par le Moyen-Âge, une époque pendant laquelle, Claude Gauvard, vous dites que la police n'existe pas au Moyen-Âge. Alors, qui est-ce qui est chargé de faire respecter la loi et l'ordre?
Alors, la police n'existe pas au sens que nous donnons à ce mot d'aide, d'auxiliaire de la justice dont vous parliez tout à l'heure. La police, ça veut dire l'art de gouverner au Moyen-Âge. Et je crois que c'est important qu'il n'y ait pas de mots Cela veut dire que, tout simplement, cette police est éclatée dans les pouvoirs justiciers, qui eux-mêmes sont totalement éclatés sur l'ensemble du royaume, entre seigneurs, entre villes, et le roi n'ayant là-dedans qu'une parcelle de pouvoir, essayant bien entendu de recentraliser, de reconcentrer ce pouvoir au fur et à mesure des 1000 ans d'histoire que couvre le Moyen-Âge.
Donc je crois que les comtes, par exemple, étaient chargés d'assurer à la fois la justice et la police, puisque c'était vraiment, la police était l'auxiliaire de la justice, il y avait leurs représentants, les prévôts, mais alors il y avait, au fond, si j'ai bien compris, Claude Gauvard, il y avait autant de police qu'il y avait de justice.
Tout à fait, les prévôts avaient eux-mêmes des sergents, et les prévôts achetaient en quelque sorte leur charge pour un temps donné, 3 ans, 6 ans, 9 ans. Ouais. Ils prenaient leur charge à ferme, à bail, et ils essayaient évidemment de récupérer sur les contribuables, sur les justiciables, le prix qu'ils avaient mis. Et ils utilisaient des sergents, mais ces sergents n'agissaient pas d'office. Autrement dit, s'ils voyaient un malfaiteur dans la rue, il leur était très difficile d'agir d'office, et sauf si celui qui avait été attaqué criait « Haro », par exemple, vous voyez. Et à ce moment-là, il était impératif alors que la police se mette en chasse de celui qui avait commis le méfait.
Alors ça, c'était le cas notamment à Paris, la capitale, à partir d'un certain moment du roi de France. Il y avait des sergents sous l'autorité d'un chevalier du guet. Mais ce qui complique les choses, c'est que non seulement il y avait une différence entre la justice et la police telles qu'elles étaient conçues à Paris ou en province, mais à Paris même, il y avait donc le prévôt du roi avec ses sergents, avec son chevalier du guet. Il y avait aussi le prévôt des marchands, qui est un peu, somme toute, l'ancêtre du maire de Paris. Il y avait même la justice de l'évêque de Paris.
Oui, il y avait aussi...
Alors c'était compliqué, ça,
c'était
quand même.
C'était extrêmement compliqué, avec des chevauchements, car vous dressez peut-être même encore un tableau trop idyllique. Il y avait des justices seigneuriales pour chaque établissement monastique, par exemple. Ouais. Saint-Germain-des-Prés, Notre-Dame de Paris, Sainte-Geneviève... pour ne citer que les principales. Et chacune avait, effectivement, des pouvoirs de justice, qui n'étaient d'ailleurs pas forcément des pouvoirs de mort, de vie ou de mort, n'est-ce pas ? C'était des sanctions qui pouvaient être, très souvent d'ailleurs, des amendes. Hein. Le plus souvent, c'était des amendes qui étaient évidemment levées par ces fameux sergents dont nous parlions tout à l'heure. Mais il fallait que la partie adverse ou le seigneur suscite la commission. Très peu de poursuites d'office, sauf de nuit où, effectivement, les sergents qui passaient pouvaient, là, arrêter les malandrins qui étaient en train de, par exemple, voler sur la Seine ou dans les barques qu'ils avaient, où ils cachaient leur butin.
Alors, trop de justice, trop de police, évidemment, tue la justice. Hein. Beaucoup de voleurs, de truands, de ruffians échappaient donc à la justice du roi, de l'évêque ou du prévôt des marchands pour se réfugier dans quelques quartiers sensibles, comme on le dirait aujourd'hui, ces coupes-gorges qu'étaient les cours des miracles.
La charité, s'il vous plaît. Oh.
La buona mancia.
Facitote caritatem.
Charité, s'il vous plaît.
Charité. On le fait d'accord des pannes.
Non, je n'ai pas un sou. Pas un sou pour manger, pas un sou pour dormir.
On ne te demande pas ta pauvreté, homme trop bien élevé. On te demande ta charité.
T'aurais pas dû franchir ce seuil.
Où suis-je?
À la cour des miracles. Tout à l'heure, un cul de jatte volant m'a volé mon chapeau.
Volé? Qui a ici pleuré qu'on l'a volé?
Tu as violé nos privilèges. Tu es entré dans le royaume d'Argot sans être argotier.
Ici, pour la justice, le bon roi Louis XI ne peut rien nous envier.
À l'instant.
Qu'est-ce que vous faites ici?
Au service du roi. J'exécute les ordres. Allez, partez! Chassez! La place de grève est assez grande pour les baladins.
Qu'est-ce qui passe ici si tard, compagnon de la Marjolaine? Qu'est-ce qui passe ici si tard, gué, gué, dessus le gué? C'est le chevalier du gué, compagnon de la Marjolaine. C'est le chevalier du gué, 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 dessus le guet. Que demande ce chevalier, compagnon de la Marjolaine? Que demande ce chevalier, guet dessus le guet? Une fille à marier, compagnon de la Marjolaine. Une fille à marier, guet dessus le guet. Vers minuit si vous repassez, compagnon de la Marjolaine. Vers minuit si vous repassez, guet dessus le guet. Il est déjà minuit passé, compagnon de la Marjolaine. Il est déjà minuit passé, guet dessus le guet. Qu'est-ce que vous lui donnerez, compagnon de la Marjolaine? Qu'est-ce que vous lui donnerez, guet dessus le guet? De l'or et des bijoux dorés, compagnon de la Marjolaine. De l'or et des bijoux dorés, guet dessus le guet. Mais elle n'est pas intéressée.
C'était Marc Robin, compagnon de la Marjolaine, une chanson du XVIIe siècle, époque du chevalier du guet, des chevaliers du guet, de cette cour des miracles si dangereuse, je crois, Claude Gauvard, que même la police, si on peut encore l'appeler comme ça, si on peut déjà l'appeler comme ça, n'osait même pas entrer, pas mettre le pied.
Alors oui, je crois quand même qu'il faut pour nos auditeurs dire que la cour des miracles est quand même largement brossée de façon romantique au XIXe siècle. Et que au
Moyen
Âge,
on a entendu un extrait du film de Paris d'après Victor Hugo.
Voilà. Donc je crois que ça c'est un élément très important de notre imaginaire d'insécurité à l'époque médiévale. Il y a des cours, je ne sais pas si elles sont des miracles, il y a des vagabonds, et on voit la cour des miracles se développer surtout à la fin du Moyen-Âge, au moment où le vagabondage est d'ailleurs puni par des lois du roi, et où aussi la crise économique, la crise sociale fait rage, si bien que les vagabonds augmentent en nombre et sont de moins en moins bien supportés par la société. Alors, il y a effectivement ce qu'on a appelé des marginaux qui se mettent en marge dans ces cours et qui emploient l'argot, qui ont
le mot vient
absolument,
de la cour des miracles,
hein. Oui, absolument. Et ils ont des signes, ils échangent des signes entre eux. Et les textes disent même qu'ils signent des rouleaux pour se prêter contrat, vous voyez, pour se prêter main forte par écrit et se prêtent serment. Et on raconte même dans un de mes textes que il y en a un qui aurait partagé avec ses compagnons de la potion magique.
Ah oui.
Alors, mais c'est vrai que la cour des miracles se développe ensuite à l'époque moderne, au cours du XVIe siècle surtout.
Alors ça, c'est Paris, Claude Gauvard. Oui. D'ailleurs, on ne parle pratiquement que de Paris depuis le début. Mais enfin, je suppose qu'il y avait aussi de l'insécurité en province, qui était chargée, en dehors des comtes, des seigneurs, de leurs prévôts en province, qui était chargée de l'or. Je crois que c'est à cette époque-là, enfin non, c'est un peu plus tard, c'est dans l'époque de François Ier, qu'est né l'ancêtre de la gendarmerie. C'était la maréchaussée, c'est ça?
Oui, la maréchaussée naît effectivement au XVIe siècle, mais auparavant, les villes avaient une police. Les villes avaient une police et elles étaient, si vous voulez, elles jouaient à la fois de la peur, si vous voulez, qu'avaient les bourgeois de l'étranger, des dénonciations que ces mêmes bourgeois étaient chargés de faire, et puis quand même ça n'a pas été suffisant, d'où la maréchaussée.
Qui était d'ailleurs dont les éléments étaient aussi dangereux que les gens qui le poursuivaient, je crois qu'il rançonnait les gens. Alors, donc il y a la maréchaussée en province, il y a les prévôts de province, il y a également le cas qui restera d'ailleurs toujours particulier de Paris, mais Paris où alors il y a une insécurité assez invraisemblable, Arlette Lebigre. Vous le dites à plusieurs reprises, c'est vraiment...
Ah mais Paris est un véritable coupe-gorge. D'abord, c'est un coupe-gorge sur le plan de la sécurité, et c'est un cloaque sur le plan de la propreté, puisque les missions de nettoiement des rues, etc., sont des missions de police. Et elles sont aussi mal remplies que les missions de sécurité. Mais l'insécurité est telle, et j'en reviens à la cour des miracles que Claude Gauvard vient d'évoquer, disons que dans les années 1660 et quelques, on a voulu percer une rue à travers l'énorme pâté de maisons qui était autour de la cour des miracles dans l'actuel quartier du Sentier à Paris. Eh bien, les gueux, comme on disait, se sont mobilisés, ils ont rossé les ouvriers qui se sont plaints à leurs patrons, lesquels patrons sont venus pour négocier avec les gueux. Eh bien, les gueux leur ont simplement répondu qu'ils étaient chez eux et qui ne tolérerait pas qu'on perce la rue. Ouais. Et on n'a pas percé la rue. Et on est tout de même sous le règne de Louis XIV.
Mmh. Au début du règne de Louis XIV, vous citez par exemple, il y a quelques chiffres sous les yeux, vous citez dans un livre, vous dites en 1642 par exemple, 372 meurtres pour un Paris qui compte 500 000 habitants.
Hein. Oui, c'est un record.
Aujourd'hui.
C'est un record.
Dont en 1665, alors ça c'est le meurtre qui va tout changer, celui du lieutenant criminel Tardieu, hein, qui est assassiné en plein jour avec sa femme dans l'île de la Cité, et ça ne s'invente pas au quai des Orfèvres. Et ce meurtre qui est à l'origine en 1667 d'un édit de Louis XIV, séparant la police de la justice et confiant à Gabriel Nicolas de la Reynie une fonction nouvelle qui allait faire de lui le premier policier de France.
Monsieur le lieutenant général de police, est-il là?
Oui, monsieur l'exemple, il vous attend pour le rapport.
Monsieur le lieutenant général, voici un placé qu'on a trouvé sur un hôtel de l'église de la Bonne Nouvelle. On y annonce de nouveaux empoisonnements qui ne seront rien à côté d'autres crimes. Plus affreux encore.
Monsieur le lieutenant général de police est prévenu qu'une cérémonie étrange et contraire à l'ordre public sera célébrée avant le lever du jour dans une chapelle isolée.
Un fou. Peut-être. Puis-je vous demander de m'accorder un petit point de votre carrosse? Je vais au pied de biche. Une taverne. Juste en face du château. On y boit du bon vin blanc et on y entend des choses fort curieuses.
Par exemple?
Que mademoiselle de Fontange sera demain la maîtresse du roi.
Tu es fou. On l'aurait dit.
Et oui, tout ce qui se passait dans le royaume et même jusque dans le lit du roi de France, l'Araignée, le lieutenant général de Louis XIV le savait, l'Araignée, premier policier de France. Là, c'était un extrait, c'est une affaire très connue, c'est un extrait du film L'Affaire des Poisons, une affaire très célèbre sous Louis XIV, dont l'Araignée s'est occupé, Arlette Le Bigre.
Ah oui, totalement. Il a été en charge de toute l'instruction de l'affaire. Mmh. Et, étant donné en sa qualité de lieutenant général de police, il a une double casquette en quelque sorte, c'est-à-dire de faire régner l'ordre et toutes les diverses missions qui vont lui être confiées, qui lui ont été confiées par l'édit de création de la police. Mais en plus, comme il a une formation de magistrat de l'ordre judiciaire, il est donc à même de remplir de façon totale les fonctions d'enquêteur.
Parce que c'est nouveau, hein, ce terme de lieutenant de police qui deviendra lieutenant général, confié à l'Araignée, qui va rester 30 ans hein, dans ses fonctions. C'est nouveau, c'est une révolution pour la police. Vous dites l'acte de création de la police, en quelque sorte.
Ah oui, et c'est d'ailleurs très curieux, c'est ce qui fait la spécificité de la police. C'est la dernière en date de nos institutions. Depuis des siècles, il existait une justice, une armée, etc.
Des forces de l'ordre, fiscale, disons, quand on parle des sergents, des brûlés.
Voilà, mais disons, une institution de police avec des personnels qui seront de plus en plus spécialisés, ça n'existait pas. Et c'est à partir de cet édit de mars 67 qu'on va pouvoir parler, effectivement, de l'institution. Et évidemment, derrière cet édit de mars 67, il est signé Louis XIV, mais derrière, il y a Colbert.
C'est lui qui a recommandé l'Araignée, évidemment.
Bien entendu.
D'ailleurs, Mazarin, puis Colbert, parce que Mazarin avait rencontré,
il avait apprécié.
L'Araignée avait été très fidèle pendant la Fronde.
Hein. Oui, oui.
Et ensuite, effectivement, c'est Colbert qui va le faire entrer. Mais vraiment avec un rang quasiment de ministre et des compétences immenses. Cette fameuse édit, Arlette Le Bigre, qui pour vous est un tournant dans l'histoire de la police, de 1667, dit, en parlant de l'Araignée, du lieutenant général, il connaîtra de la sécurité de la ville. Mais alors là, ça veut dire tout. Ça veut dire, bien sûr, toutes les fonctions de police. D'abord, le maintien de l'ordre. Il élimine, il liquide littéralement la cour des miracles. Hein, c'est fini.
Ah bah, c'était la première.
Il entre, puis il vire tout le monde.
Ah oui, c'était sa première sortie officielle. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que pour un homme de cette époque, il a un sens médiatique absolument extraordinaire. Il y aurait toutes les caméras de télévision actuellement pour filmer la manière dont, sans répandre une goutte de sang, il a liquidé la cour des miracles. Et il ne manque jamais une occasion de montrer la police.
Alors, la police dans tous ses états, dans toutes ses fonctions, parce que la sécurité, ça veut dire la sécurité de la ville, ça veut dire aussi de faire respecter l'interdiction de port d'armes que personne, qu'aucun roi depuis Louis XIII n'avait su faire respecter, le contrôle des tavernes et des cabarets de louches. Il protège la population contre les accidents, les épidémies, les incendies. C'est les pompiers aussi, si
mais
on peut dire.
Mais oui, mais bien sûr, bien sûr.
Il y a également, il organise l'évacuation des ordures, il assure la subsistance de la ville, il va en empêcher, par exemple, la spéculation sur les grains qui provoquait tout le temps des révoltes dans Paris, ça s'extrayait. Et il était très populaire, l'araignée, ce qui est rare quand même dans des fonctions de police.
Oui, il a su se rendre très populaire parce que je crois que les gens sortaient d'un tel marasme sur ce plan-là que au moins la première et la deuxième génération de Parisiens se sont vraiment rendus compte du changement. Et alors moi, il y a quelque chose qui m'amuse toujours beaucoup, c'est dans les mémoires de l'anglais Samuel Pepys, qui traite de cette période juste après l'araignée et qui, bien qu'étant farouchement anti-français, Pepys déteste les Français, bien qu'ayant épousé une Française, ou peut-être parce qu'il en avait épousé une, je ne sais pas. Mais enfin, il n'aime pas les Français. Eh bien, Samuel Pepys écrit dans son journal, « Depuis qu'on a créé la lieutenance de police à Paris, on peut sortir nuit et jour avec une bourse pleine d'or. » Bon, ce qui est légèrement exagéré. Hein,
mais d'ailleurs, elle va faire école, cette police. Il y a le pape, avec les successeurs de l'Arménie, le pape qui dit, « Mais tiens, si je faisais ça dans mes états, c'est un souverain temporel, le pape, il ne faut pas l'oublier. » L'empereur d'Autriche, Joseph II, alors là, il y a une chose extraordinaire. Vous dites qu'il cherche, il cherchait un grand criminel à Vienne.
Oui.
Alors, il s'adresse, je crois que c'est Sartine, enfin, c'est pas des successeurs.
Lors d'un voyage à Paris.
Il s'adresse à des successeurs de l'Arénie, il lui dit, écoutez, est-ce qu'il ne serait pas par hasard à Paris? Les services du lieutenant général font une enquête et disent, mes majestés, votre criminel que vous recherchez, il est à Vienne, à tel endroit, etc.
Exactement, dans tel immeuble, à tel étage.
Alors, il faut dire qu'il a laissé quand même, ils ont laissé ces lieutenants généraux, parce qu'après l'Arénie, qui a régné, si je puis dire, 30 ans, il y en a eu d'autres, hein, avec de grands noms, ils ont laissé de bons souvenirs aussi, parce qu'ils sont à l'origine de pas mal de choses. Vous dites, le code de la route, ça apparaît à ce moment-là.
Ah oui, ça c'est tout à fait extraordinaire. À partir du moment où les véhicules se développent dans Paris, où on a de plus en plus de variétés de véhicules, disons dans le premier tiers du XVIIIe siècle, autour des années 1730, eh bien, il faut bien réglementer cette circulation. Et c'est le lieutenant général de police en exercice qui va, par exemple, décider que on ne pourra pas conduire des chevaux et ni une voiture à moins de 18 ans.
Ah bon, déjà. Ah,
oui, le permis de conduire à 18 ans, ouais, mais pas avant. Et également lui qui va décider que les voitures devront être immatriculées avec de la peinture de telle couleur sur tel fond pour qu'on puisse bien voir les numéros. Qui organise aussi un service d'objets trouvés dans les voitures publiques, avec un bureau des objets trouvés.
Mais il y a même, on commence à mettre des plaques avec les noms de rues, c'est à ce moment-là, hein, ça c'est également le lieutenant général.
Oui, absolument, ça leur propre initiative.
Hein. Oui, c'est assez fabuleux. Il y a la construction de lanternes, évidemment, Paris était dangereux, comme toutes les villes, la nuit, parce qu'il n'y avait rien éclairer, et là je crois que c'est sous l'araignée d'ailleurs, 2736
C'est lui qui avait commencé à faire l'éclairage des rues. Et alors, comme il avait évidemment deviné que les marchands de suif en profiteraient pour faire grimper les prix, en même temps qu'il avait ordonné la création de ces lanternes, il a pris une ordonnance taxant le prix du suif.
Alors tout ça, on le comprend, Arlette Lebigre, c'est ce qui a rendu l'araignée très populaire, et avec lui sa police, qui malgré tout ne fait pas que du bien dans la capitale, en tout cas qui n'est pas toujours bien vue, parce que dans les fonctions du lieutenant général, il y en a qui sont tout de même plus contestables, et lorsqu'ils s'en prennent par exemple aux livres, et en particulier à la Bible du siècle des Lumières, et à ses deux auteurs, d'Alembert et Diderot.
Police du roi. L'encyclopédie que vous dirigez avec Monsieur Diderot est interdite.
Je le sais depuis longtemps.
Alors comment expliquez-vous que les volumes paraissent toujours? On suspend l'impression, on ferme l'imprimerie, on pose des scellés, et l'encyclopédie circule toujours sous le manteau, se répand à l'étranger. Vous ne trouvez pas ça étonnant?
Très étonnant. On n'arrête pas le progrès.
Et oui, c'est l'aspect le moins sympathique du travail du lieutenant général du roi, qui est aussi directeur de la librairie. Alors non pas pour défendre les livres, mais au contraire pour les censurer, je crois, Claude Gauvard.
Oui, la censure est de là aussi date de l'époque médiévale. Hein. Et effectivement, ils sont les sergents, sous les ordres d'ailleurs très souvent du roi, font brûler un certain nombre d'ouvrages sur la place publique. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les policiers sont aussi très, très violents. Et ils peuvent être d'ailleurs l'objet de rixes eux-mêmes contre les gens qu'ils vont arrêter. Et on voit des villages entiers venir, ce qu'on appelle à la rescousse, n'est-ce pas, de celui qui est arrêté pour empêcher qu'il soit violemment malmené par le policier.
Il y a une chose qui est assez détestable aussi, c'est la façon, par exemple, et notamment pendant la Régence, on arrête des prostituées, on arrête des gens recherchés, on les envoie en Louisiane, comme ça, c'est ce qu'on appelle la presse, je crois que c'était assez dur, de même que, évidemment, les envois un peu arbitraires dans les prisons, Arlette Lebigre.
Oui, il est certain que c'est le lieutenant général de police qui est le responsable des lettres de cachet pour la ville de Paris. Et nous savons de sources absolument certaines que 80% des lettres de cachet n'émanent pas de la volonté du pouvoir, mais des familles qui prétendent se débarrasser ainsi d'un de leurs membres et qui leur cause du dommage. Mais il n'empêche que c'est tout de même le lieutenant général de police qui signe finalement. Et d'ailleurs, on a un document extrêmement amusant qui est signé Voltaire et qui, à la tête d'une dizaine d'habitants de son quartier, demande humblement au lieutenant général de police une lettre de cachet contre la tripière de la rue de Vaugirard, qui paraît-il une personne extrêmement grossière, désagréable, qui s'est rendue vraiment tout à fait déplaisante à son quartier, à tous les gens du quartier. Et on voit Voltaire qui a signé cette lettre en tête des 8 ou 9 autres habitants du quartier, demandant une lettre de cachet.
Autre méthode, vous citiez les brutalités, on a évidemment les gens de première défense de cartouches, enfin de tous les grands bandits de l'époque, utilisation aussi de ses prédécesseurs, des indiques, qui étaient les mouches. Hein, c'est ça. Oui. On utilisait des renseignements par l'intermédiaire de ces indicateurs de police avant le mot, qu'on appelait les mouches. Hein,
c'est d'ailleurs le successeur immédiat de l'araignée d'Argenson qui a créé. L'araignée avait commencé à faire son petit réseau d'indiques. Et c'est d'Argenson qui l'a porté, évidemment, à des dimensions tout à fait considérables. Cela dit, on ne peut pas faire de bonne police sans indiques.
En tout cas, ça explique peut-être finalement l'impopularité de la police, en tout cas à la veille de la Révolution qui va profondément la transformer. Mais nous en parlerons demain dans 2000 ans d'histoire. Alors, Claude Gauvard, Alain Lebigre, merci. Je rappelle que vous êtes toutes les deux, vous faites partie toutes les deux de cette équipe d'historiens, spécialistes chacun dans chaque époque, d'historiens qui ont rédigé cette histoire et dictionnaire de la police qui a été publié chez Robert Laffont dans la collection Bouquins qui vient de sortir. Je crois que c'est un livre à peu près unique en son genre parce que l'histoire de la police, on la connaît mal, justement parce qu'il n'y a jamais eu véritablement d'histoire exhaustive de la police.
C'est la première synthèse en équipe, je crois.
Oui.
Alors, nous avons eu beaucoup de plaisir à collaborer.
Histoire et dictionnaire de la police, donc, chez Robert Laffont. Claude Gauvard, vous êtes également l'auteur de Violence et ordre public au Moyen-Âge, qui doit sortir le 30 septembre aux éditions Picard. Quant à vous, Arlette Lebigre, vous êtes l'auteur d'un livre que je recommande, mais qui est assez petit, mais très complet, La police, une histoire sous influence, édité chez Gallimard dans les collections Découvertes. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, François Villon, d'André Svoboda, disponible en vidéo chez René Château, Notre-Dame de Paris de Jean Delannoy, disponible en DVD chez Studio Canal, L'affaire des poisons de Henri Decoin, disponible en vidéo chez René Château, et Le Libertin de Gabriel Aguillon, disponible en DVD chez Pathé Vidéo. Ces références sont disponibles par téléphone au 32.